à la vitesse de l'éclair, lui, là. Hein. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Guy.
Parfait. Merci beaucoup. Bon matin à vous tous. Aujourd'hui, mon bonheur de vous visiter est double. Parce que Dieu voulait, je vais vous visiter aussi ce soir avec les églises de la région. Alors, et si toutefois ma présence ne convient pas, dites-vous que ça va être fini pour l'année, vous allez être correct. Vous allez être délivrés. Vraiment, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin et mon bonheur a commencé tout de suite lorsque j'ai sorti de mon véhicule et j'ai vu des personnes qui étaient au service du Seigneur au niveau du stationnement. Et j'ai pris le soin de leur dire que leur travail, leur service m'édifiait. Et ensuite, j'ai passé puis j'ai vu des gens un peu partout au travail. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui font un travail dans l'ombre, vous avez une pleine récompense en Jésus-Christ et vous avez toute mon appréciation. Et ceux qui me connaissent le savent. Si je le dis, c'est que je le pense. Alors, gloire à Dieu pour le service qui est fait ici à l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine. Ce matin, j'aimerais faire deux choses. La première, ça serait de faire mon infopub sur l'heure de la bonne nouvelle. Et pour vous dire que c'est commencé depuis dimanche le 15 janvier, quels sont ceux qui ont vu la première émission? OK. Alors, je vais installer un confessionnal à l'arrière. Non. Mais écoutez, vous avez la miséricorde est toute suffisante. Vous allez avoir l'occasion de le voir parce que je vais présenter dans quelques instants un extrait de la première émission, les trois premières minutes qui servent en quelque sorte d'info-publicité pour les émissions. Alors aujourd'hui, ce sera la troisième émission et je vous invite dès midi à l'antenne de VTL de vraiment regarder ces émissions-là et d'inviter vos amis à écouter ces émissions-là. Et cette année, le titre pour 2017, le visiteur venu du ciel. Et tout ça, c'est tout fait avec une étude de l'Évangile de Jean. Donc, comme j'ai dit, c'est sur V à 12h et c'est en reprise le dimanche suivant à 6h du matin et aussi c'est sur les ondes de Télémag le dimanche à 13h30, le vendredi à 19h et samedi à 6h30. Et c'est encore cette année Jean-Pierre Cloutier, François Fréchette et Jeff Lorrain qui font l'animation. Prions pour eux, prions pour ceux qui entendent le merveilleux message de l'Évangile. Et donc, je vous présente sans plus tarder, si c'est possible techniquement, les trois premières minutes de la première émission et vous allez voir, ça va vous mettre en appétit. À bientôt. vous parler de la miséricorde. Et le titre du message que j'ai pour vous ce matin, et j'espère que c'est le message que Dieu va propager dans vos cœurs, concerne le miracle de la miséricorde. Vous savez, en étudiant le Nouveau Testament, en remarquant les salutations que Paul fait à chacune des églises, à chaque groupe de croyants en qui il envoie ses salutations avant de livrer son épître, il va toujours parler aux gens, exemple dans le premier épître aux Corinthiens, dans le deuxième, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu en Jésus-Christ. Et ensuite, l'épître aux Romains, encore une fois, cette salutation-là de la grâce et la paix qui nous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Tite. Tous ces épîtres-là ont en commun cette salutation de l'apôtre Paul qui parle de la grâce et de la paix. Et dans son épître, dans ses deux épîtres à Timothée, il va aller un peu plus profondément puis il va dire que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données. Et je pense que c'est pas un hasard, c'est pas juste par politesse que Paul a adressé cette salutation-là. C'est que selon lui, la grâce, la miséricorde et la paix devraient faire partie de notre vie personnelle et de notre vie collective en tant que croyants au sein de l'Église. Non seulement Paul a parlé de la grâce, la miséricorde et de la paix dans ses adresses, mais si on regarde attentivement, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, va nous parler de la grâce, et dans sa deuxième épître, il va nous parler de la grâce et de la paix. Et Jean, dans son deuxième épître, au chapitre 3, au verset 1, verset 3, nous parle que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données. Et même l'épître de Jude, il est question de cette miséricorde. Et au verset 21, il est question de la paix. Et ce que je trouve de vraiment fantastique, dans 2 Jean, on peut aller dans 2 Jean, je vous invite à tourner, je ne l'ai pas sur la diapositive. Dans 2 Jean, au chapitre 2 Jean, chapitre 1er, et verset 3. Jean va dire que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Ce sont les 5 éléments de base qu'on devrait toujours avoir à l'esprit et ce sont les 5 éléments qu'on devrait vivre d'une façon constante dans notre vie chrétienne. Et le verset thème que je pourrais utiliser, parce qu'on a fait une série de 6 messages là-dessus à Shawinigan, et je vous prie de me croire, ce message-là, c'était peut-être pas les meilleurs messages du monde, mais ce sont des messages qui ont été mis en application dans notre Église et qui ont porté du fruit à la gloire de Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que ce message-là sur la miséricorde puisse produire des effets dans votre vie. J'ai tout le temps dit que si le dimanche matin, on ne sort pas de l'église transformée, on arrêtait mieux d'aller jouer au bowling. Ça aurait été plus contributif. Donc, la nécessité de la miséricorde pour chacun d'entre nous. Là, je clique comme ça, je ne sais pas, mais la prochaine, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Merci beaucoup. Alors, dans Matthieu, au chapitre 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si on accorde la miséricorde, nous recevrons la miséricorde. Vous savez, quand Dieu se présente à son peuple dans Exode, Exode au chapitre 34, verset 6, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner. Sinon, moi, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Oui, merci. Alors, Dieu se présente à son peuple et voici la façon dont Dieu va se présenter. Il va leur dire, l'Éternel passait devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Voici la manière que Dieu se présente à son peuple. Et la caractéristique numéro un qui nous est mentionnée dans la parole, c'est le fait que Dieu est un Dieu de miséricorde. Que Dieu est miséricorde Dieu. Si j'avais à vous décrire la miséricorde est l'amour en action. La miséricorde fait en sorte qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils auraient mérité de recevoir ou la punition qu'ils devraient avoir. Dans sa grâce, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas et dans sa miséricorde, il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et par la paix de Dieu, par le produit du Saint-Esprit dans nos vies, on peut vivre vraiment dans le fait qu'on est connu de Dieu, puisque la paix de Dieu, c'est d'être connu de lui, que notre situation est connue et réglée par Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, on a besoin de cette paix divine au quotidien. Mais autant on a besoin de sa paix dans nos cœurs, autant on a besoin de sa grâce, et on a besoin de sa miséricorde, et on a besoin aussi de le manifester envers nos frères et nos sœurs. J'aimerais proposer une définition supplémentaire qui donne encore plus de saveur, que la miséricorde, c'est pas juste de s'abstenir de faire ou de dire quelque chose, mais c'est en quelque sorte une gentillesse inattendue. Quand on manifeste la miséricorde, on est en train de faire ça. On est en train de faire quelque chose de bienséant qui était inattendu de la part de l'interlocuteur. Et permettez-moi une espèce de jeu de mots, puis vous me pardonnerez si je suis effrayé, mais quand même, ça fait la job. Pour moi, la notion de miséricorde, là, c'est « il y a de la misère ou elle a de la misère, donne-y de la corde ». C'est vrai, dans le fond, pensez-y, là. La miséricorde, c'est ça, regarde, tu prends compassion des gens, tu regardes, il est vraiment dans le trou, je vais avoir compassion de lui, je m'en vais, moi, il donne un break. On a tous besoin d'un break. Dieu nous a donné un break, les gens nous donnent un break, puis on a l'occasion de donner un break aux gens. Et quelqu'un d'autre a fait un autre jeu de mots, mais là, ça va. Je m'excuse, mais j'aimerais vous servir de ça pour le retenir. Quelqu'un dit, Dieu nous demande d'être miséricordieux. On doit accorder la miséricorde comme Dieu l'accorde. Ce matin, quand on a vu au pas du Seigneur les qualités de Jésus-Christ, la compassion, et moi j'ai pensé à la chose suivante, c'est toujours bon pour vous et moi d'obtenir la compassion de quelqu'un, n'est-ce pas? Si tu es malade, puis un de tes amis, un frère, une sœur, ton épouse, ton époux, puis là tu sens une compassion, ça fait-tu du bien? Mais ça, c'est bon. Mais Jésus-Christ, dans sa compassion, je sens toute la passion pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est ce qu'on aime dans la compassion. On sent qu'il y a une passion des personnes pour nous, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à qui on est. Et j'aime Jésus-Christ quand on parle de compassion, parce qu'il manifeste une passion comme Dieu seul peut manifester une passion pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Comment c'est chaud pour notre cœur de voir Dieu est passionné pour nous. Tu sais, le moment à votre place, il est-tu craint? Non, non, je vous dis, Dieu est passionné pour nous. Je me sens tout le temps turbulent ici au cas de la Madeleine. Je suis toujours déstabilisé. Fait que mon moment difficile va être passé pour l'année. Non, mais je me sens intimidé. Je me sens intimidé. Je ne sais pas pourquoi. C'est chronique depuis des années. Mais savez-vous quoi? Je vous aime quand même. Je vous aime vraiment. Puis j'ai l'impression que je suis nerveux parce que je veux faire le mieux de moi-même. J'essaie de mieux communiquer les vérités de Dieu. Alors, merci beaucoup. Je sens une compassion, Michel. Merci. Gloire à Dieu. Je suis un livre ouvert devant vous. Au point, quand j'arrive chez nous, je me dis, Guy, t'aurais dû te la fermer. Mais au moins, je ne suis pas menteur puis hypocrite. Bon, et tous les autres défauts. On revient au sujet, la miséricorde. Merci d'être miséricordieux envers moi. La miséricorde que Dieu nous a manifestée et qui veut à notre tour qu'on puisse manifester et de faire en sorte que notre miséricorde va être l'amour en action. J'aimerais voir avec vous 5 marques de la miséricorde. Et le premier élément, la première manifestation de la miséricorde, c'est de manifester la miséricorde envers ceux qui sont tombés. La Bible dit, bientôt, Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il est dit, « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans Matthieu chapitre 9, on n'y tournera pas au verset 13, et dans Matthieu chapitre 12, verset 7, le Seigneur est en train de rappeler à son audience qu'il prend plaisir dans la miséricorde plus que toute autre chose. Est-ce que nous, on prend plaisir dans la miséricorde? J'ai l'occasion de visiter plusieurs églises et de rencontrer plusieurs frères et sœurs, et quelquefois, souvent, j'ai l'impression qu'on est fort sur la grâce de Dieu envers ceux qui viennent être réconciliés avec Jésus-Christ. Mais un coup réconcilié avec Dieu, un coup qu'on fait partie de l'Église, la grâce, c'est plus difficile. Ça fait en sorte que je dis à certaines personnes, si tu as des péchés à faire, tu as tout bien les faire avec, parce qu'après, il n'y a plus de pardon. Mais c'est ça dans une certaine mesure. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas y avoir de discipline, puis qu'on doit être laxiste, puis de tout accepter, puis laisser le péché nous dominer. Non, 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 non. Mais l'idée, c'est la grâce de Dieu est toute suffisante, frères et sœurs. J'ai l'impression que quand on n'est pas capable de manifester la miséricorde, c'est qu'on oublie la miséricorde qu'on a reçue de la part du Seigneur. On est comme celui, hein, dans une parabole. Qui devait de l'argent, la dette qu'il a remis, il va voir celui qui doit 10 cents, puis il pogne à la gorge, puis il va entrer, tu me payes tout de suite, puis drette l'eau, puis tout. On lui a tout pardonné des sommes colossales. Comment est-ce qu'on est par rapport à la miséricorde que l'on peut accorder aux gens? Il m'est arrivé une aventure, et c'est assez quand même, pas traumatisant, mais intriguant, de voir qu'à toutes les fois où je vais prêcher ce message de la miséricorde, il arrive quelque chose dans ma vie dans la semaine. Puis les 6 semaines qu'on a prêché à Shawinigan là-dessus, il est arrivé quelque chose. Puis j'ai vu des interventions divines qui font en sorte que je peux dire que la miséricorde, lorsqu'elle est accordée, dans la perspective divine, ça devient un miracle, ça devient une transformation, ça devient une action surnaturelle dans les cœurs. Dans le service du Seigneur, j'ai été confronté à certaines difficultés, et là je me souviens, il y a un frère, mettons, qu'il n'avait peut-être pas bien agi. Puis, dans mon réflexe humain, j'aurais eu le goût d'y donner une leçon. Mettons, d'y en déboucher une canne. Et pendant une réunion, je n'ai pas tout à fait bien réagi. Je n'ai pas été malsain, je n'ai pas crié non, je n'ai pas dit rien de négatif. J'ai juste soulevé certains points. Mais quand j'étais dans mon bureau, le Seigneur me parlait. Puis à un moment donné, j'appelle le frère. Oh, j'en parle pas. Là, c'est comme le Seigneur me disait, Guy, t'as oublié ce que je t'avais dit, hein, la miséricorde. C'est vous ce que j'ai fait? J'ai rappelé le frère. J'ai dit, hey, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Je veux te demander pardon. Puis en quelque sorte, c'est comme si je lui demandais pardon d'avoir fait que lui ait fait un mauvais coup. Puis savez-vous quoi? J'ai été béni de ça, puis ça a restauré ma relation avec le frère. On est toujours gagnant quand on est miséricordieux. C'est l'expérience que je fais avec le Seigneur. Maintenant, un deuxième aspect de la miséricorde, non seulement envers ceux qui ont péché, ceux qui ont tombé, ceux qui nous ont offensés ou ceux qui ont offensé Dieu, mais un deuxième niveau, c'est celui, la miséricorde vient en aide à ceux qui sont blessés. Et il y a un verset qui dit dans Jacques, chapitre 2, versets 15 à 17. « Si un frère ou une sœur sont nus, et manque de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous leur donniez ce qui est nécessaire, je vais faire paraphraser le trouble, vous êtes inconséquents avec votre foi. » Il y a cette parabole dans l'Écriture, cette histoire que Jésus nous raconte concernant le Samaritain. Celui qui a pris le temps de s'arrêter. Et celui qui a accordé de la miséricorde, c'est celui qui est arrêté pour prendre soin de la personne qui était blessée. J'ai entendu ce message de la miséricorde concernait ce qu'on devrait, la miséricorde qu'on devrait octroyer à ceux qui sont blessés, à ceux qui sont meurtris, à ceux qui sont malmenés. Et de ce matin-là, je m'en souviens très bien, c'était en décembre, et j'ai entendu le message, et je devais quitter la réunion tout de suite entre les deux réunions. Nous, on a une pause entre les deux. Et là, je devais partir, aller à 200 km de l'église et aller à une réunion. Alors, je devais partir rapidement, puis j'avais pas le temps de m'accrocher les pieds partout, comme on dit. Alors là, je suis sorti de l'église comme une tornade, comme d'habitude. Et là, j'étais prêt, tu sais, j'avais un objectif. Fallait que j'aille aider, fallait que j'aille présider une réunion annuelle d'une église à 200 km de Shawinigan. Puis, c'était sur l'heure du dîner. Fait que, quand il est 10h30, tu manges pas longtemps en chemin. Et là, je suis sorti de l'église. Puis là, j'ai vu une sœur qui était là, qui s'en allait parce qu'elle n'avait pas la santé. Elle a vraiment un gros, gros trouble de santé. Elle est éprouvée dans son corps. Puis moi, tu sais, je suis parti, comme d'habitude, comme un coup de vent. Puis là, je passe à côté, puis ben, tu sais, je peux pas m'arrêter, je suis pressé. Moi, là, tu sais, j'ai un service pour le Seigneur. Fait que j'embarque dans mon char. Mais tu sais, c'est comme... Non, OK, j'arrête pas. J'embarque dans mon char, j'arrive à mettre ça sur de la veine. C'est pas vrai que j'arrêterai pas ici ce matin. J'avance avec mon char, je baisse ma vitre, je dis, hey, j'ai affaire à toi. J'ai dit, je veux juste te dire, ma sœur, que je prie pour toi, puis je compatis. Ça doit être terrible de ne pas avoir d'énergie, de même. J'ai fait un câlin, puis j'ai sauté dans mon skidoo, puis je suis parti. Puis savez-vous ce que cette sœur-là, elle a appelé ma femme, puis elle a dit, Guy, il a fait vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Il a manifesté une compassion envers moi. Puis ça me fait beaucoup du bien. Ça m'a pris 30 secondes. C'est probablement le 30 secondes que j'ai le mieux investi dans toute cette journée-là. C'est ça le miracle de la miséricorde. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Vous êtes prêts pour un troisième point? Je suis patient envers ceux qui sont difficiles. Et là, on nomme pas de nom. Que je ne vous voie pas nommer des noms. Pas m'en prendre de l'eau parce que, oui, c'est ça. J'aimerais vous décrire les personnes difficiles, sans nommer de nom. C'est l'exercice qu'il faut faire. Permettez-moi de voir mes notes pour ne pas dire n'importe quoi. Les personnes difficiles. C'est ceux qui ont un mauvais caractère. Ça n'existe pas, mais ça existe. Difficile à travailler avec. Les gens qui sont abrasifs. Les gens avec qui c'est toujours plus compliqué de travailler. Les gens qui sont à la rigueur déplaisants. Et comme j'ai dit, on n'aimera pas de nom. Puis ce qui me fascine dans tout ça, c'est que les gens trouvent toutes les autres toujours déplaisants, mais personne ne se trouve déplaisant. C'est un peu comme les gens disent, « Ah, j'ai été agressé par ce frère-là, cette soeur-là, lui, il m'a fait de quoi, lui, il m'a fait de quoi. » Mais jamais personne ne vient me voir et dit, « Écoute, Guy, je suis tellement déçu de moi, j'ai agressé quelqu'un. » Le monde est rempli juste de monde agressé, mais il n'y a jamais d'agresseur. Mais normalement, à chaque agressé, il devrait avoir un agresseur. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? On trouve le monde difficile, puis dernièrement, je pense que c'était pas juste moi qui l'avais remarqué, mais une personne était assez difficile, puis la personne, « Hein, je suis difficile! » C'est au dos d'affaires, tu sais, c'était une évidence pour la planète entière, sauf cette personne-là. Fait que moi, ça me dit quelque chose, parce que celui qui m'a amené à l'Évangile, Pierrot, il me dit, « Tiens, Guy, quand tu vois un problème, c'est quoi ton problème à toi? » Lui, il est spécialiste de la poutre et de la paille. Puis là, je me dis, « Ça se peut-tu que je sois difficile? » Oui, c'est vrai, j'entends des amènes, mais quand même, tu sais, ben, essayez de m'aider un peu. Là. Faites la ligne à la fin, Guy, t'es difficile. OK, parfait, dites-moi en quoi, puis je vais essayer de me... Accordez-moi la miséricorde, je vais essayer de me changer. Mais chacun d'entre nous, ça nous arrive d'être confronté à des gens avec qui c'est pas facile. Et quel devrait être notre réflexe? D'être patient envers ces personnes-là, considérant la patience de Dieu envers chacun d'entre nous, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion de manifester la miséricorde à un groupe de personnes avec qui j'ai eu mal à partir. Et c'était dans mon église. on est très poli, très gentil, très diplomate, il n'y a pas de problème. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et on a eu une discussion franche et ouverte. Mais cette discussion-là m'a mis, ça passe à peau. Puis là, je suis revenu chez nous, puis là, Dieu est grand et bon, et je le remercie. C'est comme Dieu me dit, Guy, tu vas changer ton attitude. Ah non, mais Seigneur, tu ne comprends pas, regarde, je ne suis pas dans le tort pour une fois, je ne suis pas dans le tort, c'est bon. Non, Dieu me dit, dans le secret, change ton attitude. Le lendemain matin, je fais une méditation, j'arrive à la réunion du soir, je parle aux frères, j'arrive avec un enthousiasme délirant, comme je suis capable. Puis Dieu va changer mon cœur. Et savez-vous ce qui est arrivé? Les personnes avec lesquelles j'avais eu mal à partir, Dieu leur avait parlé aussi, ils avaient complètement changé leur attitude, sans que je parle de rien. Sans que je leur dise que je m'étais senti offensé. Et depuis ce temps-là, avec ce groupe de personnes-là, j'ai un lien que je n'ai jamais eu de toute ma vie. C'est ça le miracle de la miséricorde. J'ai pas attendu que Dieu garde, quand ils viendront s'excuser, je m'en vais peut-être lui accorder le pardon. Non. Je pardonne d'avance. La police qui pardonne. Ça devrait être notre slogan, nous autres. D'accorder le pardon. Comment c'est bon d'accorder la miséricorde, ça me fait penser à la réconciliation. Peut-être j'en avais déjà parlé, mais j'aime tellement la réconciliation. Des fois, je dis à ma femme, on doit être dû pour une grosse chicane, là, parce que là, écoute, c'est tellement bon la réconciliation. Puis faites-vous-en pas, chez nous, les assiettes volent pas, puis on a beaucoup de bienséance. Mais tu sais, des fois, je vais faire des choses que ma femme, elle dit, bon, OK, c'est pas fort, bon, OK, puis ça va lui faire de la peine. Mais juste de dire, je te pardonne, je t'aime quand même, j'ai une passion pour toi, j'ai une compassion pour toi. Je vous dis, les plus beaux feux d'artifice que j'ai vécu avec ma femme, c'est suite à une réconciliation. Fait que, ouais, je pense que je vais viser ça. Comprenez-vous, c'est ça l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs, qui peut être palpable et qui produit des effets bénéfiques, magnifiques. Et la miséricorde, c'est ça que ça produit dans chacune de nos vies. Et j'avais un verset biblique. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 14, il dit « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et usez de patience envers ceux que ça vous tente d'utiliser la patience. » Non, envers tous. Et tous, ça comprend les personnes difficiles. Il y a un texte dans la parole qui nous dit dans 1 Thessaloniciens, un peu plus tard, au verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Amen. Quand on est confronté à des gens difficiles, j'aimerais vous inviter à regarder au-delà du comportement malséant. Bien souvent, les gens n'agissent pas bien, sont aigris, sont frustrés, sont marabouts. Il faut essayer de voir pourquoi est-ce que les gens manifestent cette attitude-là qui est un peu déplaisante. De voir au-delà du comportement. De voir avec les yeux du cœur. De voir les blessures que ces gens-là ont, qu'ils ne sont pas guéris. De voir, dans certains cas, la faible estime d'eux-mêmes qu'ils ont, puis ils essayent de contrecarrer ça par autre chose. Les gens qui vivent des frustrations, des gens qui vivent de la jalousie. Quand les frères ou les sœurs ou les gens que l'on côtoie sont déplaisants, qu'on puisse voir qu'il y a une source en dedans d'eux qui doit être guérie, qui doit être changée, et qu'on puisse avoir suffisamment de compassion pour prendre ça en considération. Colossiens chapitre 3, verset 13, il nous est dit, écoutez bien, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné aussi. » J'aimerais souligner le petit bout qui dit « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre. » Il y en a qui nous donnent plus de matière que d'autres. N'est-ce pas? Si on a sujet de se plaindre, allons au Seigneur. Et réalisons comment que lui nous a pardonné à chacun d'entre nous. Ensuite, le quatrième, non seulement d'être gentil, d'être patient envers ceux qui sont plus difficiles, mais d'être gentil avec ceux qui sont nos ennemis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand quelqu'un, c'est ton ennemi, le réflexe naturel, humain et charnel, c'est de dire, écoute-moi bien, je vais y remettre la monnaie de sa pièce, puis il va avoir plus de change que la pièce qu'il m'a donnée. Le réflexe, c'est ça, n'est-ce pas? Alors que c'est tellement différent et tellement drastique ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Et je me souviens qu'il y a plusieurs années, j'ai affronté un ennemi et je n'ai pas suffisamment manifesté de miséricorde et ça m'a créé des problèmes. Puis, selon ce que je peux discerner, je pense que j'étais plus victime qu'agresseur. Mais j'ai souffert de ça parce que je n'ai pas accordé la miséricorde et Dieu me mettait le défi devant moi d'exercer la miséricorde et je l'ai fait, mais partiellement. Puis parce qu'il en manquait un bout, ça a fait foirer bien les affaires. D'aimer nos ennemis, ce n'est pas naturel, ce n'est pas logique, mais c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est l'exemple qu'il nous a montré et c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Mon bon ami Michel Pendo, il dit toujours, il y a une expression, hein? La main tendue, la joue enflée. C'est vrai qu'il faut avoir ce réflexe-là. Puis quand tu présentes une joue, présentes l'autre, si tu le fais, tu es en train de glorifier Dieu, puis il va y avoir quelque chose de miraculeux qui va se passer. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez ça d'être biblique, puis il y a un autre bout de la Bible que vous avez le goût d'appliquer, qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas ça, là. Mais vous comprenez, c'est un peu des fois on tord les Écritures. C'est comme un frère qui avait dit à Chongan, il avait dit, écoute, la Bible, elle dit qu'on peut mentir. C'est marqué, pourquoi renoncer au mensonge? Il avait oublié, là, c'est pourquoi, tu sais, parce que, gars, c'est pas bien, c'est un, puis ça marche pas, c'est un enfant de Dieu. Alors, des fois, on tord un peu les Écritures. Mais c'est pas normal d'aimer nos ennemis. Mais quand on réussit à aimer nos ennemis, la lumière divine jaillit. Et normalement, les ennemis lucides le remarquent et ils filent cheap. C'est pas le but du jeu, mais c'est ça qui arrive. Puis ça l'aide peut-être les gens à dire, ouais, peut-être que j'ai manqué une occasion, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bien séant. Donc, la Bible nous invite à être gentils avec ceux qui sont nos ennemis. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et jusqu'à preuve du contraire, nous faisons tous partie de cette catégorie-là. La seule différence, c'est qu'il y a deux sous-catégories, ceux qui sont réconciliés avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et si on a le privilège d'être réconciliés, il faut avoir assez de compassion pour aller voir les gens. Et c'est mon prochain sujet qui dit « Je me préoccupe de ceux qui sont perdus ». Est-ce qu'on a suffisamment de compassion pour sortir le message? La Bible nous dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Chacun d'entre nous, ce qui est aberrant de voir, le mandat numéro un pour lequel Dieu nous a laissés sur la terre, c'est de propager l'Évangile, c'est de sortir le message. Et il semble pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose d'optionnel si on a le temps puis si on a le goût. Je vais dire quelque chose de très gros ce matin. Puis je vais faire une publicité, c'est vrai, je suis dans le forum, mais quand même. Moi, je me dis que chaque chrétien, au moins une fois dans sa vie, devrait aller au forum des évangélistes. Pour être vraiment sensibilisé à la mission, au mandat que le Seigneur nous a donné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, pas juste des croyants, pas juste des sauvés, des disciples. Et on devrait, comme chaque bon musulman doit aller à la Mecque une fois dans sa vie. Mais écoutez, c'est pas normal, on est l'Église de Jésus-Christ, on est des ambassadeurs, puis on veut pas aller à l'ambassade. Il y a quelque chose qui marche pas quelque part. Et je me réjouis de ce qu'on a fait, l'initiative de l'Académie des évangélistes, c'est pas parfait. Mais on a une préoccupation en tête. Encourager les frères et sœurs à sortir le message de l'Évangile, à prêcher le bon message. Et à propager ce message-là avec la bonne attitude. Pas dans une attitude d'égaliste, puis dire, toi là, t'es pécheur, là, nous, sur la montagne Seine, ça va très très bien, toi, en bas, la température, ça va toujours? Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Nous, comme ambassadeurs de Christ, on est des mendiants qui ont trouvé du pain, qui vont voir d'autres mendiants, qui disent, viens voir, on a trouvé du pain. Il n'y a pas de snobisme. Moi, je pense qu'on manque de compassion, on manque de miséricorde envers ceux qui sont perdus. C'est comme si on oubliait qu'on a déjà eu faim dans notre vie avant de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est vraiment quelque chose. Trois raisons ou trois motivations pour lesquelles on devrait manifester cette miséricorde-là, de ces cinq façons-là, il y a d'autres façons. La première raison, c'est que Dieu est miséricordieux et il veut qu'on puisse être des gens qui vivent dans la miséricorde. La deuxième raison qui fait en sorte qu'on devrait vivre cette miséricorde-là, c'est qu'on en a besoin au quotidien. On a besoin que les gens qui nous entourent accordent la miséricorde. Moi, j'ai un privilège énorme à l'Assemblée de Shawinigan avec les anciens. Ils sont vraiment miséricordieux envers moi. Et je le sais. Puis même s'ils ne me le disent pas, je le sens quand même. Je trouve que c'est tellement bon de savoir qu'on peut être pardonné. On peut être toléré. On peut être aimé malgré nos défauts. J'ai déjà dit à l'Assemblée de Shawinigan, vous avez fait ce que je suis parce que vous m'avez aimé. Dans Romains 15, je n'ai pas le temps d'y tourner, mais ça dit, accueillez-vous les uns les autres comme vous avez été accueillis par Jésus-Christ. C'est le verset thème de notre Église cette année. De s'accueillir les uns les autres comme Dieu nous a accueillis. C'est vraiment ce que je souhaite, mon vœu pour vous, pour 2017. Que vous soyez en mesure de vous accueillir les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Et j'aimerais faire une exhortation, j'aimerais vous inviter à tourner, parce qu'il me reste encore quelques minutes, je vais suivre le temps. Matthieu 23, 23, s'il vous plaît, c'est tellement important. Puis tous ceux qui ont un petit esprit religieux en eux, je fais partie de la gang, on est tous religieux à un niveau ou à un autre. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus va dire à ces gens-là, l'élite religieuse, là, ceux qui se pensent à bon puis fin. Ça peut parler à nous parce que j'ai l'impression que des fois on a ce feeling-là et c'est un mauvais feeling. Et là, le Seigneur va le. Écoute, il est quand même assez sévère envers eux autres. Il est pas mal plus sévère envers eux qu'envers la Samaritaine. Il va dire au verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette et du cumin, on n'ira pas dans les détails, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. La miséricorde est là-dedans, là, c'est pas moi qui l'invente. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Peut-être que vous dites, ah, moi je suis un bon chrétien, je sers le Seigneur, je lis ma Bible, je prie, patati patata. Super, gloire à Dieu, continue, longe pas. Mais si tu oublies la justice, la bonté, puis la miséricorde, t'es peut-être en train de déplaire à Dieu royalement. Un indice de notre maturité, de notre santé spirituelle et émotionnelle, c'est la façon dont on réagit envers les gens. De façon divine ou d'une façon charnelle. Vous choisissez. On peut se penser bien spirituel, mais la manifestation est faite dans la grâce, la miséricorde et la paix. Verset 24, je suis correct pour 30. C'est-tu correct, Adamo? Faut-tu que je voie un signe? Je suis en péril, m'as-tu tombé? Non? OK, parfait. Soyez donc, ma conclusion, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ma conclusion ce matin, c'est est-ce qu'on écoute la voix du Seigneur? Est-ce qu'on écoute le Seigneur quand il nous parle? Comme je dis, dans l'occasion, je me suis arrêté pour saluer une sœur qui vivait des difficultés. D'autres endroits, je me suis arrêté, j'ai repris le téléphone, puis j'ai appelé. Le Seigneur, est-ce qu'il vous parle ce matin? Si vous avez écouté, maintenant, il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a quelqu'un à parler ou une action à faire de prier le Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous parle, mais on n'écoute pas. Il me reste quelques minutes, j'aimerais juste vous raconter l'expérience que j'ai vécue en Haïti. On était là pour un voyage humanitaire et missionnaire. Et on a annoncé l'Évangile aux gens du village. Et si vous voulez annoncer l'Évangile en Haïti et d'être aussi populaire que le docteur, amenez-vous une scie mécanique. Parce que la moitié des arbres ont tombé sur la tornade, puis il y en a ces maisons. Fait que quand tu arrives pour faire une maison, toute la tribu sort, puis là, tu as des clients plus que tu peux en faire. Mais j'ai fait ce travail-là, puis j'ai vu vraiment le besoin. Un jour, j'aimerais vous présenter ce qui se passe là-bas, vraiment. Puis à un moment donné, on avait à cœur d'annoncer l'Évangile, pas juste faire du travail humanitaire, mais d'annoncer l'Évangile. Et le matin, à la clinique, il y a une clinique qui est là pour les gens du village et des alentours, et c'est vraiment le centre médical que cette mission-là de la Bible parle, on fait. Et là, on était là, puis le pasteur Clermont, on dit pasteur parce que c'est vraiment son rôle là-bas, il dit, viens Guy, on va aller annoncer l'Évangile aux gens qui sont là, aux gens qui sont malades. Et il fait sortir les gens de la salle d'attente, puis il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Puis aussi, non seulement il y avait une parole de réconfort, l'Évangile, mais il leur donnait des biscuits. Puis là, moi, je suis à côté, il dit, regarde, Guy, check, qu'est-ce qui va se faire ça, prie. Fait que là, moi, je prie. T'sais, puis lui, bon, il prêche. Puis là, je me dis, OK, Seigneur, je te prie de bénir ta parole, tout. Puis je vois du monde. À un moment donné, il y a un monsieur qui est en train de faire la noche papillon sur le dos. T'sais, il est en train de s'évanouir. T'sais, oh, il va pas bien, lui. Puis là, tu sais, je voyais vraiment, c'était. Puis là, il manque de tomber. Fait que je m'en vais le voir. T'sais, puis j'aide l'autre personne à le retenir. Puis là, c'est comme si Dieu me disait, Guy, va y parler. Mais là, tu sais, quand tu sens ça, c'est-tu moi qui se parle dans ma tête ou ben non, c'est Dieu qui me parle? Puis là, je ne lui ai pas dit, pasteur Clermont, j'ai une révélation, cesse de parler. T'sais, il va dire, c'est qui ce moron-là? Mais par après, j'ai compté l'expérience que j'ai vécue avec Dieu, il dit, t'aurais dû le faire. Parce que j'ai prié dans mon cœur, mais j'ai touché la personne, mais je ne savais pas quelle maladie qu'elle avait, puis ça avait l'air assez grave. T'sais, puis à un moment donné, tu ne te protèges plus, rendu à la fin. Puis là, à un moment donné, j'ai prié, mais je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. Je suis parti. On a fini de prêcher, je suis parti. Je suis allé au déjeuner, puis le pasteur Clermont me voit et dit, Guy, tu sais, le monsieur qui était mal, il dit, il vient juste de mourir. Bon. J'ai manqué une occasion. Dieu m'a parlé, puis je n'ai pas oublié. J'avais peur. J'avais peur de me tromper. Mais là, je sais que je me suis trompé dans le mauvais sens. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Père Céleste, je veux terminer ce message-là, puis inviter mes frères et mes sœurs à te demander pardon. Parce que Seigneur, tu nous parles, tu nous montres des choses, mais c'est comme si on devenait amnésique instantanément. Seigneur, on veut te demander pardon parce qu'on ne sait pas suivre ta voix. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous rendes obéissants à ta parole. Et Seigneur, on veut te demander une faveur, une grâce, c'est que quand tu nous parles, de nous parler d'une façon assez claire pour qu'on n'ait aucun doute. Et Seigneur, on sait que le problème n'est pas de ton côté, de notre côté. On veut écouter, mais on se ferme les oreilles. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Et Seigneur, rends-nous sensibles au fait que tu veux que nous soyons des hommes et des femmes selon ton cœur, et qu'on puisse manifester la miséricorde dans nos vies, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen.